En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci, Monsieur le Président. Guerre et religion, on l'a dit, bien que relevant d'ordre conceptuel très distinct, se confortent souvent l'une l'autre. Mais j'ai choisi de prendre la question à l'envers et d'examiner à travers un exemple historique particulièrement suggestif les cas où elles s'opposent. Et ayant pris cette décision, j'ai immédiatement éliminé la moitié de la matière, en écartant ceux où la religion inhibe la guerre, qui est un fort beau sujet en soi, mais qui ne sera pas le mien ici, pour me concentrer sur les situations où c'est la guerre, au contraire, qui modère les passions religieuses et les fait passer au second plan. L'exemple retenu est celui de la guerre de 30 ans, dont la fin constitue un tournant majeur de l'histoire occidentale, à laquelle je me limiterai. Mais j'essaierai d'en tirer une modélisation susceptible de servir ailleurs, à d'autres époques ou pour d'autres aires culturelles, dans l'analyse de situations semblables. Je tenterai de montrer, dans ce qui n'est qu'un ensemble de remarques que j'espère cohérentes, que la guerre ne sécularise pas de soi directement les rapports sociaux. Si c'était le cas, la sécularisation n'aurait pas attendu la modernité pour se manifester. Si elle le fait, c'est indirectement, par le biais de conséquences inattendues de l'action historique, au rebours des intentions des acteurs, souvent, dans certaines circonstances et dans celles-là seulement. La contribution de la guerre apparaît alors comme celle d'un puissant accélérateur de tendances déjà présentes qui se serait plus que vraisemblablement affirmé plus graduellement sans elle. La modélisation tentera de démonter le mécanisme et cherchera à cerner le type de circonstances susceptibles de le voir s'enclencher. Et je le soumettrai à une contre-épreuve pour déterminer si l'on trouve des mécanismes similaires en dehors de contextes guerriers où la religion tient le premier rôle et situer, si c'est possible, les caractères spécifiques qu'ils revêtent, si c'est le cas. Voilà donc le programme. Alors, je ne suis pas historien. Et ce que je vais dire de la guerre de 30 ans trahira sans doute une érudition assez limitée sur le sujet. Je suis sociologue, un sociologue que ses maîtres ont rendu friand de mécanismes générateurs, c'est-à-dire d'enchaînement, contexte, finalité, moyen, conséquence de l'action, susceptibles de s'incarner dans diverses situations pour peu qu'elles y soient propices, c'est-à-dire qu'aucun facteur ou aucune circonstance ne vienne enrayer le développement de la logique identifiée. Le cas où le stade ultime de l'action collective dévoile des effets émergents, inattendus et spectaculaires sont bien sûr parmi les plus excitants, au moins sur le plan intellectuel. À ce titre, la guerre de 30 ans m'intéresse depuis longtemps et je l'utilise comme exemple emblématique de tel mécanisme. Son importance dans l'histoire occidentale fait peu de doute. Les traités de Münster et d'Osnabrück par lesquels elle se conclut sont une étape importante du droit international public, particularité européenne promise après 1945 à un avenir planétaire. Ils consacrent la souveraineté des États, ils mettent en place les linéaments d'un concert des nations qui survivra jusqu'à l'aube du XXe siècle, et ils sont à la racine d'une question de politique intérieure qui ne manquera pas de se poser par la suite, celle du statut des minorités, pour commencer, des minorités religieuses. En quoi cette guerre a-t-elle partie liée avec la sécularisation, que j'entendrai ici au sens large, non seulement comme affadissement de convictions et de passions religieuses, mais encore comme terme mis à la domination de la sphère publique par la religion? Le moins qu'on puisse dire, c'est que la sécularisation n'a pas attendu la guerre pour s'affirmer. En germe, dans l'humanisme des XVe et XVIe siècles, elle est consubstantielle à la modernité naissante et à son projet prométhéen. et elle s'approfondit avec le rationalisme des Lumières jusqu'au moment où, à des dates plus ou moins avancées ou tardives selon le lieu, l'État se sépare de l'Église ou des Églises, en droit ou en fait. Le processus de la sécularisation, pour schématiser à l'extrême, se laisse décrire en trois étapes qui s'étagent sur plusieurs siècles. Il débute à compter de la publication des maîtres-livres de Bacon et de Descartes, et puis des épisodes de Bruno et Galilée, par l'émancipation de la connaissance à l'égard des dogmes religieux. L'expérience chez Bacon, le doute chez Descartes, plus généralement la méthode chez tous les philosophes et savants de l'époque moderne, se substitue à la référence aux Écritures comme critère de la vérité. Très vite, les académies des sciences prennent la place des Églises comme gardiennes et garantes des croyances acceptables sur le réel, sur la base du consensus des savants reconnus. Le mécanisme à l'œuvre est doté d'un moteur endogène, puisque l'objectivité scientifique oblige à faire passer l'observation et le raisonnement au premier plan et à mettre entre parenthèses traditions et valeurs. Il se poursuit, ce processus, un peu plus tard, assez vite, lorsque le politique s'émancipe à son tour de la tutelle religieuse, ce à quoi, au demeurant, la tradition chrétienne, contrairement à d'autres, ne s'oppose pas en principe, puisque les évangiles, comme vous le savez, ceux de Matthieu et de Luc, laissent la porte ouverte à une séparation du temporel et du spirituel. Il fait peu de doute que la conclusion de la guerre de 30 ans y a puissamment contribué à cette sécularisation pour ce qui est de la scène internationale, selon des modalités sur lesquelles il faudra que je revienne. Mais ici, le moteur endogène se situe plutôt dans la politique interne, consiste dans la tolérance et la liberté de culte qui mettent un terme aux dissensions et aux violences à propos des doctrines religieuses en présence, comme on le voit en France avec l'édit de Nantes, puis en Angleterre et dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, assez vite. La paix civile, c'est-à-dire l'injonction de vivre ensemble sans violence, suppose des compromis, lesquels impliquent que l'éthique de conviction cède la place à l'éthique de responsabilité. Commune appartenance à une même cité l'emporte alors comme principe d'unité sur des identités collectives longtemps dérivées de la religion. La citoyenneté entraîne la neutralité de l'État, qui la conforte en retour. Et la dépatrimonialisation graduelle de la puissance publique, bien sûr, y a aidé grandement. La dernière étape est celle qui voit le capitalisme se libérer au XVIIIe et au XIXe siècle de la tutelle religieuse qui pesait sur lui jusque-là. C'est ce qu'André Piètre, en son temps, appelait le second âge de l'économie. Alors, je ne m'étendrai pas, sinon pour dire que le capitalisme laissé à lui-même est impatient des normes, souvent indifférent aux valeurs et un puissant solvant des institutions héritées. Henri Madras faisait remarquer que le développement économique et l'espérance de vie allongée qui en résulte induisent un culte du bien-être matériel qui tente à déprimer le souci de l'au-delà ou à le renvoyer aux phases ultimes de l'existence. Au total, là où la loi divine enserrait de toutes parts la vie sociale publique et privée depuis le Moyen-Âge, au terme de ce long processus, les émancipations successives mettent fin à la domination de la sphère publique par la religion et elles affaiblissent son emprise sur la vie privée. Si donc, en Occident, la sécularisation n'a pas eu la guerre comme condition nécessaire, il serait trop dire qu'elle n'influe pas sur elle. C'est ce que montre à l'envi la guerre de 30 ans. Vous le savez, elle débute en 1618 par des conflits religieux en Europe centrale. Elle est d'abord limitée au monde germanique et à sa périphérie. Mais les belligérants éprouvant le besoin de soutien et d'appui externe, de guerre civile, elle devient bientôt guerre étrangère dès lors que les puissances voisines, le Danemark, la Suède puis la France, y interviennent. En tant que guerre de religion, elle n'est donc pas chimiquement pure. Des visées hégémoniques s'y font jour, notamment du côté suédois et bientôt français, et les alliances nouées ne recoupent pas toujours les clivages religieux. Mais les motifs religieux sont fondamentaux, puisqu'un des problèmes de fond est la remise en cause, avec la défenestration de Prague en 1618, du principe posé en 1555 par la paix d'Augsbourg, celui qui reconnaissait aux princes des innombrables principautés germaniques la liberté de choix de culte et le droit d'imposer ce choix à leur population, le fameux principe cuius regio et ius religio. Cette guerre signe l'incapacité finale du Saint-Empire à s'imposer aux États impériaux, alors que là comme ailleurs, les rapports entre collectivités politiques ne sont plus totalement régis par les vieilles allégeances féodales, mais ne le sont pas encore totalement non plus, et ne le seront pas avant longtemps dans la région, par l'idée d'État unifié. C'est là le second grand enjeu. Elle voit enfin émerger des tentatives pour combler par la force, hors des schémas de monarchie universelle qui avaient cours précédemment, le vide que crée la faiblesse du Saint-Empire. La volonté suédoise de se tailler un empire sur le continent, puis la stratégie réaliste de Richelieu et de Mazarin annonce la montée des États-nations dans la période qui va suivre. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette guerre, une fois qu'on l'a présentée brièvement? La première est sa complexité. Et cette complexité, elle est due au nombre de ses acteurs, à leur revirement, il leur arrive de changer d'avis, et surtout à ses enjeux multiples. La deuxième tient à sa durée, un peu plus d'une génération. Elle est certes entrecoupée de rémissions, mais l'unité de lieu lui confère un caractère d'un conflit formant ensemble. D'ailleurs, les historiens ne s'y sont pas trompés et les contemporains eux-mêmes semblent avoir perçu l'unité de ces enchaînements. La caractéristique suivante, et sans doute la plus saillante, c'est que son coût est très lourd pour la plupart des parties prenantes. Les historiens nous disent à son propos que son bilan en termes de pertes humaines directe et surtout indirecte, est proportionnellement aussi élevé pour l'Allemagne de l'époque que celui de la Seconde Guerre mondiale au XXe siècle. On dit couramment qu'un tiers de la population du Saint-Empire aurait laissé la vie au cours de ces 30 années. Ces coûts économiques et politiques sont également écrasants et les populations, celles qui sont directement concernées par la présence d'armées qui vivent sur le pays, ou celles qui, à l'extérieur, supportent le fardeau fiscal qu'elles leur imposent, ces populations les tolèrent de moins en moins bien au fil du temps. Et c'est d'ailleurs ce qui en précipitera la fin. La paix conclue par les traités de Westphalie de 1648 est une paix d'épuisement, une paix spectaculaire, puisque sur un point majeur, elle donne lieu à un renversement complet. Et les signataires, comme vous le savez, conviennent que désormais, les princes bénéficieront à nouveau de la liberté de culte et qu'on ne se battra plus pour des questions de religion entre États. Autrement dit, on décide de passer par pertes et profits les passions religieuses qui avaient amené les gens, les États, à s'entretuer, à consentir à des risques et des sacrifices énormes pour l'emporter. C'était sur ce point revenir au principe de la paix d'Augsbourg et faire comme si rien ne s'était passé au cours des 30 années précédentes. Alors, il n'est pas du tout certain que beaucoup des contemporains aient pressenti les conséquences à terme de ce qui venait d'être conclu. C'était en effet neutraliser la religion dans la politique internationale et interdire l'ingérence externe dans les affaires internes des États. C'était donner à la sécularisation et au principe de souveraineté une impulsion forte et à beaucoup d'égards décisive. Et dès lors que les principes de suzeraineté et de vassalité s'épuisent, que l'unité de la chrétienté n'est plus et que la légitimité à base religieuse se fragmente, une configuration sans puissance matérielle ni autorité religieuse indiscutée, sans Église et sans Empire, capable de s'imposer à tous les princes, eh bien, cette configuration voit se mettre en place les conditions de relations entre États soumises à l'égalité formelle d'une part, au mécanisme instable de l'équilibre des puissances de l'autre. Il s'agira dès lors d'empêcher, par un jeu de coalition à géométrie variable, l'émergence d'une nouvelle puissance impériale en Europe. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le système westphalien, dont la structure oligopolaire, comme l'enseigne Jean Béchler, favorise la limitation des guerres, du moins tant que commotion ou frénésie idéologique lui sont épargnées. La mutation est donc d'importance et la sécularisation des relations internationales y figure en place centrale. Ayant dit cela, il reste à éclaircir ce qui a motivé le renversement spectaculaire apparu lors des négociations finalisées en 1648. On comprend bien que l'épuisement des parties prenantes dans une situation militaire où, après une génération, n'émerge en termes absolus ni vainqueur ni vaincu, on comprend bien que cet épuisement soit de nature à engendrer de la lassitude. Mais il y a lassitude et lassitude, et derrière les effets qu'elle engendre, il importe pour le raisonnement d'identifier la nature de celle qui est à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'une conversion affective simultanée, d'un change of heart symétrique qui conduirait à brûler aujourd'hui ce qu'on adorait hier. Et pour cela, on a un certain nombre d'indices qui suggèrent que l'inimitié mutuelle des adversaires demeurait jusqu'au bout, notamment le fait qu'ils ne négocient des mois et des années durant que par le truchement de médiateurs. Ils n'arrivent même pas à se parler directement. La réconciliation des affects induite par l'épuisement ne semble donc pas la cause du renversement. Il s'agit bien plutôt d'un compromis rationnel dont la nécessité apparaît de part et d'autre avec la prise de conscience d'une fonctionnalité réduite de la force dans un conflit très long d'où n'émerge aucune conclusion claire et où les coûts sont devenus insupportables et politiquement dangereux pour les souverains et pour leur trône. Dans de telles conditions, il devient sage de prendre sur soi et de renoncer aux objectifs fixés au départ, quand bien même ils étaient indexés sur des valeurs identitaires d'une force tout à fait considérable. Alors peut-on, à partir de cet exemple historique marquant, monter en généralité ? C'est l'intérêt d'un mécanisme générateur mis au jour d'être susceptible de se reproduire dans un certain type de circonstances qu'il permet alors d'analyser de manière non entièrement ad hoc. La question revient à se demander à quelles conditions le contexte d'action historique doit répondre pour que la logique nominale identifiée informe le réel social et puisse produire au bout du processus les effets qu'elle laisse attendre. En d'autres termes, quelles sont les conditions de validité du modèle ? La guerre de 30 ans en donne une idée assez nette. Il y faut d'abord un différend inexpiable, parce que portant sur des idées et des valeurs en conflit, sacralisées de part et d'autre, et qui, comme toujours avec le sacré, justifie le sacrifice, autorise à punir sévèrement le sacrilège et façonne puissamment les identités collectives. C'est bien le cas des passions que suscite encore, dans cette première moitié du XVIIe siècle, des différences théologiques définissant des camps prêts à se battre pour elles sans compromis possible ex ante. On est alors fort loin des appréciations ironiques portées par un Jonathan Swift, moins d'un siècle plus tard, lorsqu'il assimile les différences et les conflits théologiques un conflit entre petits boutiens et grands boutiens autour de l'enjeu dérisoire de la bonne manière de casser les œufs à la coque. Il faut ensuite que le conflit sanglant s'étire démesurément en longueur sans produire l'issue militaire dénuée d'équivoque que souhaitent les belligérants chacun pour leur compte. Le fait d'être privé de la satisfaction espérée de leurs objectifs politiques les conduit à s'interroger sur la fonctionnalité de la force et sur l'utilité de continuer les combats. Il faut, en troisième lieu, que la guerre soit douloureuse en perte de termes humains, de destruction et de manque à gagner économique, de prélèvements fiscaux, de contraintes liées au stationnement de troupes comme aux exigences de la loyauté et du secret, enfin, en termes de fragilité de la légitimité des souverains aux yeux des populations soumises à leur règne. La quatrième condition est que la multiplication des parties prenantes, du fait des appuis recherchés dans l'environnement externe, et l'existence de spectateurs impartiaux faisant pression pour une cessation des hostilités qu'ils désapprouvent moralement, induisent une complexité qui pèse sur la liberté d'action de chacun des belligérants et leur ôte l'espoir d'une solution séparée qui se satisferait peut-être de demi-mesure. L'ensemble de ces conditions se trouve renforcé, quand c'est le cas, par le sentiment que le conflit sanglant est une redite historique, qu'on aurait pu s'épargner, puisque les solutions envisagées pour sortir de l'impasse l'étaient déjà dans l'étape précédente, ou font l'objet d'un retour au statu quo hanté, en l'occurrence ici, les termes de la paix d'Augsbourg en matière de liberté de choix de culte. Alors la conjonction d'un conflit très long, complexe et non conclusif, et de coûts s'avérant à la langue difficilement supportable, mène les élites dirigeantes à réévaluer les choix qui étaient les choix initiaux, dans le cas de la guerre de 30 ans, ceux de la génération précédente. Ces choix sont au nombre de deux. Le premier est celui de recourir à la force. Les sacrifices consentis doivent à l'expérience apparaître injustifiés au regard des résultats obtenus. Le second est celui des valeurs érigées en enjeu suprême. Ces valeurs-là méritaient-elles qu'on leur sacrifie tout ? De telles réévaluations expriment pour chaque belligérant une lassitude susceptible d'engendrer une interrogation sur le point de savoir si elle est partagée par l'adversaire. Si c'est le cas, et il est probable, les conditions sont réunies pour le renversement spectaculaire que je décrivais tout à l'heure. La contre-épreuve promise consiste à se demander si tels renversements sont attestés ou envisageables dans des contextes d'où les passions religieuses et le recours à la violence sont absents. Alors, je n'ai pas eu à chercher bien loin, je n'ai pas eu à me livrer une recherche personnelle sur ce point, parce que j'ai trouvé la réponse chez Boltanski et Thévenot, dans le livre produit il y a maintenant 20 ans, qui portait le titre, si je me souviens bien, « De la justification, les économies de la grandeur ». Et cette réponse de Boltanski et Thévenot est positive. Si la volonté de vivre ensemble dans la paix civile prédomine, les compromis qui peuvent s'établir entre les divers principes de bien commun différents qu'ils identifient passent, selon ces auteurs, par une au moins de trois modalités. Premièrement, montrer que le compromis n'est pas un arrangement privé entre parties, mais qu'il a une portée publique. Deuxièmement, le faire reposer sur une alliance du relativisme et des sciences humaines en transformant les principes normatifs en lois positives, comme le fait la pensée politique moderne à partir de Machiavel. Enfin, troisièmement, suspendre le différend, renoncer à un principe de bien commun et dénoncer, à la manière de Nietzsche, la tyrannie des valeurs pour s'en remettre à un mécanisme spontané tel que le marché, l'équilibre des forces ou les files d'attente. Alors on vérifie aisément que ces modalités de compromis s'appliquent bien au traité de Westphalie. Une paix conclue est un compromis de portée publique. S'il est vrai que la seconde modalité n'est pas immédiatement présente, la philosophie, avec David Hume notamment, théorisera par la suite, au XVIIIe siècle, l'équilibre des puissances à structure oligopolaire du système westphalien. Et enfin et surtout, le renversement spectaculaire est bien un renoncement aux valeurs pour lesquelles on s'est coûteusement battu. Alors si le même mécanisme de résolution du conflit est susceptible de s'appliquer en contexte de guerre et de paix, que la religion y joue un rôle ou non, c'est que le cas qui nous occupe est une variante particulière d'un schéma plus général. Et la question devient alors, en quoi les contextes guerriers à motivation religieuse sont-ils spécifiques ? Alors il semble que de telles spécificités soient liées à un très faible degré de négociabilité des enjeux au début du processus, aux facteurs qui motivent le recours aux armes et le font préférer initialement à la négociation d'un principe de bien commun mixte. Là où une négociation semble possible et acceptable par les parties, le compromis à passer, bien sûr, peut faire l'économie de la guerre. C'est souvent le cas lorsque l'enjeu renvoie à des intérêts qui ne touchent pas à l'essentiel. C'est plus difficile lorsque des valeurs divergentes sont l'objet du différend à résoudre. Et c'est carrément, a priori, problématique lorsque les valeurs en question engagent le sacré, les ancrages identitaires ou même l'existence même de la collectivité politique. Le conflit apparaît alors un point de passage obligé et une issue militaire rapide peut le régler. Mais dans le camp inverse, s'il s'éternise et s'avère sans solution militaire, un processus de neutralisation des valeurs devient probable comme issue négociée. Alors, on peut ajouter que la victoire par les armes recherchée stérilement de part et d'autre suppose l'optimisation de l'efficacité guerrière qui profite à la rationalité instrumentale et à elle seule. Et on retrouve là une des intuitions centrales de Weber sur cette dernière, la rationalité en finalité, comme moteur de la rationalisation diffuse, dont l'autre nom pourrait être, pour cette raison, mais en une acception élargie, la sécularisation du monde. Et cette dernière considération permet d'élargir le propos pour finir, au moment de l'illustrer par des exemples contemporains. Les conflits sanglants entre camps se définissant mutuellement par des différences théologiques ont disparu du paysage politique occidental. La sécularisation y a fait son œuvre. Même l'Irlande du Nord oppose moins les catholiques à des protestants sur des points de doctrine théologique que des groupes sociaux héritiers d'une animosité vieille de 3 siècles entre communautés qui se disputent les places et se querellent sur des questions constitutionnelles. On pourrait, sans trop de dommages pour l'analyse, substituer à catholiques et protestants n'importe quel badge of difference. Il n'en va pas de même dans le monde musulman, là je parle sous le contrôle des plus grands spécialistes, où la sécularisation est un produit d'importation et où, après les ratés d'une modernisation dictatoriale à marche forcée, la loi divine, inégalement selon les endroits, fait un retour remarqué et continue à enserrer culture, politique et économie. Si derrière la guerre civile en Syrie, derrière le terrorisme meurtrier en Irak et au Pakistan, se profilent des stratégies de puissance entre l'arc chiite et les sunnites du Golfe, les camps se définissent bien selon des identités indexées sur des traditions théologiques qui ont manifestement encore assez de sens pour mettre des foules dans les rues. Alors, il n'est pas certain que l'opposition entre ces deux branches de l'islam perdure et dégénère. Après tout, la technologie, le développement économique et les réseaux sociaux pourraient fort bien, par-dessus la tête des dignitaires politiques et cléricaux, affadir les ferveurs religieuses là aussi et rendre un jour le conflit aussi anachronique qu'une guerre à base religieuse en Occident. Mais s'il demeure, et certains indices montrent que ça ne se passera pas facilement, il s'annonce dur, long, coûteux, douloureux, et pourrait fort bien également enclencher à terme le mécanisme générateur dont il a été question ici. Et si on élargit encore la perspective en donnant au mot « sécularisation » un sens moins exclusivement religieux et qu'on l'associe à la neutralisation d'idéologies, de nationalisme ou de passions ethniques, à l'issue de conflits longs et durs, alors les illustrations contemporaines de ce mécanisme générateur ne manquent pas. Le processus de désarmement consenti de l'IRA et des milices loyalistes d'Irlande du Nord, après 40 ans de violence, est clairement de ce type. La décision, après un demi-siècle de terrorisme, d'autodissolution de la branche militaire de l'ETA, accompagnée d'un adoucissement de la répression, aussi. Et encore, les grandes rébellions d'Amérique du Sud, FARC, Sentier Lumineux, etc., après des décennies d'insurrection et de contre-insurrection. Et il n'est pas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre de 30 ans, 1914-1945, qu'on ne puisse soumettre à la même analyse, à cette différence près, qui introduirait sans doute quelques variantes dans le modèle, qu'il fallut l'écrasement du Troisième Reich pour émettre un terme définitif. Alors, c'est le mot de la fin. Sauf contrainte ou intervention extérieure, jamais certaine d'être en mesure de l'inhiber, ou dissuasion mutuelle par des armes de destruction massive le rendant trop dangereux pour tout le monde, un conflit rendu inexpiable par des enjeux non négociables de part et d'autre a de fortes chances de passer par la case « guerre », Or, cette case n'a que 2 issues, soit une victoire nette d'un camp sur l'autre, dont l'expérience historique, celle de la Première Guerre mondiale ou celle de la guerre des Six Jours et beaucoup d'autres, suggère qu'elle ne clôt qu'un chapitre et que d'autres suivront, soit la purge des affects politiques dans la douleur et sur le long terme, qui règle la question de manière définitive en amenant les belligérants à renoncer d'eux-mêmes aux valeurs qui fondent leur identité, surtout si leur histoire commune recèle des précédents. Merci de votre attention. Merci.